Ensuite, je vous laisse avec Adrien Delgrange pour votre journal d'Haïti et des Amériques. Bonjour Adrien.
Bonjour Andréane et bonjour à tous. De New York à La Havane, de Rio à Montréal. Bienvenue à tous dans votre journal des Amériques.
RFI.
À la une de ce 10 juillet, Megan Rapinoe qui passe un message à Donald Trump. La joueuse américaine, championne du monde de football, hier sur CNN, s'est adressée face caméra au président pour lui dire qu'il se trompait dans la politique qu'il mène. Et vous entendrez le détail de ce message dans un instant. Nous vous proposerons aussi un entretien avec l'ancienne directrice de MSF Médecins Sans Frontières en Haïti. Lindy Souroum reviendra notamment sur la situation sécuritaire qui se dégrade en Haïti. Dans la revue de presse d'Arim Lipold, il sera notamment question de la disparition inquiétante d'un parlementaire colombien, de la réforme des retraites au Brésil qui fait grincer des dents, et puis au Canada, la difficulté pour les artistes africains à obtenir un visa. Enfin, notre correspondante à Cuba a réussi à interviewer un nouveau candidat à la Maison Blanche, John McAfee, célèbre pour avoir créé un logiciel antivirus qui porte son nom. Il vit en exil sur son bateau amarré dans le port de La Havane. Domiti Pierron l'a rencontré. Quand le sport entre dans la sphère politique, Megan Rapinoe passe un message à Donald Trump après la victoire des Américaines au Mondial de football. La star de l'équipe, Megan Rapinoe, avait déjà affirmé qu'elle ne se rendrait pas à la Maison Blanche si d'aventure Donald Trump voulait inviter l'équipe championne du monde. Mais hier, sur CNN, Megan Rapinoe rajoute une couche en affirmant qu'aucune de ses coéquipières n'irait à la Maison Blanche. Et surtout, pour elle, eh bien, qui revendique son homosexualité, il est hors de question de poser à côté d'un président raciste et homophobe.
Je pense que votre message exclut les gens. Vous m'excluez moi, vous excluez les gens qui me ressemblent, vous excluez les gens de couleur, vous excluez des Américains qui peut-être vous soutiennent. Je pense qu'il faudrait réévaluer votre message « Make America Great Again ». Je pense que vous vous référez à une époque qui n'était pas satisfaisante pour tout le monde. Elle l'était peut-être pour quelques personnes, mais aujourd'hui, elle ne l'est pas pour suffisamment d'Américains sur la planète. Et je pense que nous avons tous une responsabilité. Vous avez une grande responsabilité en tant que dirigeant de ce pays, de prendre soin de chaque individu. Et vous vous devez de faire mieux pour tout le monde.
Megan Rapinoe hier soir sur CNN. Les championnes du monde de football iront aujourd'hui à la rencontre de leur public. Elles paraderont à bord d'un bus dans les rues de New York aujourd'hui.
RFI, Revista de Prensa.
Arim Lipold a feuilleté les journaux du continent américain. Bonjour Arim.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Et dans votre revue de presse, tout d'abord l'actualité colombienne. La Cour suprême a ordonné l'arrestation du parlementaire Jesús Santrich, ancien négociateur avec la guérilla des FARC. Il est porté disparu depuis maintenant une dizaine de jours.
Oui, c'est à la une de la presse colombienne. Le cas Santrich a défrayé la chronique. Ce n'est qu'un nouveau chapitre dans le feuilleton politico-judiciaire écrit à l'Espectador, accusé de trafic de drogue et confronté à une demande d'extradition des États-Unis. L'ancien négociateur de l'accord de paix devait se présenter hier mardi à une audience judiciaire. Ayant constaté son absence, la Cour suprême a également sollicité l'Organisation internationale de police criminelle, à savoir Interpol, pour retrouver le fugitif, comme l'écrit El Tiempo. Le journal relate les rumeurs selon lesquelles Santrich se serait enfui au Venezuela. Le site de l'hebdomadaire Semana pointe la réaction du président colombien Iván Duque qui, dans une brève allocution, a salué la décision de la Cour suprême. « Nous serons implacables avec ceux qui veulent poursuivre ces activités criminelles », avertit le président cité par le journal.
Au Brésil, à présent, Arim, c'est une décision de justice qui est aussi à la une de la presse.
Oui, la justice brésilienne a condamné hier le géant minier Vale à payer tous les dommages causés par la rupture du barrage de Brumadinho. Dans sa décision, le juge Nogueira du tribunal de l'État de Minas Gerais n'a pas fixé le montant total à payer pour Vale. Il a estimé que les dommages causés par la rupture du barrage ne se limitaient pas à la perte de vies humaines. 270 personnes sont mortes ou portée disparue, selon le juge. C'était par au Globo. Il faut aussi prendre en compte les conséquences environnementales et économiques. Cette catastrophe est, d'après Folha de São Paulo, l'une des plus tragiques de l'histoire de l'industrie minière brésilienne.
Autre titre dans la presse brésilienne, la réforme des retraites. Le projet de loi sera soumis au vote des députés dans la journée.
Oui, d'après Folha de São Paulo et au Globo, les députés de la Chambre devraient adopter le texte ce matin à Brasilia. Parmi les points forts du projet de loi, la mise en place d'un âge plancher pour obtenir une retraite à taux plein, 65 ans pour les hommes et 62 ans pour les femmes. L'objectif de la réforme, Adrien, rappelle le site d'information Nexo, c'est de réduire le déficit, mais l'obligation de travailler plus longtemps avant de toucher sa retraite pourrait aussi avoir des effets négatifs sur l'économie, expliquent des experts consultés par le site. Le texte, en tout cas, est très très controversé au Brésil, a déjà poussé des milliers de personnes à descendre dans la rue pour être appliqué. Eh bien, le projet de loi doit encore être approuvé par les sénateurs.
À l'écoute des RFI, autre sujet dans la presse, à Rimes, au Canada. Il est de plus en plus difficile d'obtenir un visa en tant qu'artiste étranger.
Oui, c'est un dossier à lire sur le site du journal Le Devoir. Les nouvelles pratiques d'octroi de visa ont donné des sueurs froides aux responsables du festival Transamérique, habitué à pourtant la circulation internationale des spectacles. À 10 jours de son inauguration, en mai dernier, écrit le journal, 6 artistes n'avaient toujours pas les visas canadiens nécessaires à leur entrée dans le pays. Une danseuse, par exemple, du spectacle Calakuta République n'a récupéré le sien que 15 heures avant le début de la représentation. Elle a donc eu juste le temps de sauter dans l'avion et de filer de l'aéroport au théâtre. Des difficultés qui sont devenues courantes pour le festival Nuit d'Afrique, qui a débuté hier, mardi, à Montréal. Les causes, eh bien, Le Devoir note l'incompréhension du statut de l'artiste par les services d'immigration, la sous-traitance des dossiers et, depuis l'année dernière, l'exigence d'y ajouter les empreintes digitales et une photo numérique.
Et puis enfin, en Haïti, le président Jovenel Moïse promet de mettre en place un gouvernement pour débloquer le pays.
Nous travaillons, nous dialoguons pour que d'ici peu, nous puissions doter le pays d'un gouvernement pour pouvoir débloquer la situation dans le pays. C'est ce qu'a annoncé le président hier lors d'une réception au Palais National en l'honneur de 3 joueurs de la sélection nationale de football. D'après le nouveliste, Jovenel Moïse s'est présenté comme un apôtre du dialogue et du vivre ensemble. Commentaire du journal. Le président était attendu pour la nomination annoncée imminente d'un nouveau gouvernement. Il n'en est toujours rien. Certes, il a reconnu le blocage du pays. Poursuit les nouvellistes, la principale inconnue demeure. La nouvelle équipe sera-t-elle avec ou sans le dernier Premier ministre nommé, Jean-Michel Lapin? L'opposition ou la société civile y aura-t-elle un rôle? Tout paraît compliqué, résume le journal haïtien.
Merci, Arim. Arim Lipold pour la revue de presse des Amériques.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Depuis plusieurs mois à présent, la situation sécuritaire se dégrade en Haïti avec une hausse très marquée de la violence armée. Alors comment cette situation affecte-t-elle le système de santé haïtien? Question posée par Marie Normand à Lindis Ouroum, ancienne directrice de mission de MSF, Médecins Sans Frontières en Haïti. Elle rentre tout juste de Port-au-Prince où elle a passé plusieurs mois en Haïti. MSF gère notamment un centre d'urgence à Martissant, un quartier défavorisé de Port-au-Prince, qui a observé une augmentation importante du nombre d'admissions de patients pour des blessures par balle. Lindis Ouroum est avec Marie Normand.
Nous avons reçu plus de 230 patients les premiers 3 mois de l'année, ce qui est un chiffre double par rapport à l'année passée. Le système de santé haïtien est déjà insuffisamment financé et équipé et souffre d'un manque de personnel. Et les structures de santé publiques ne peuvent pas faire face à un afflux de blessés de patients. Donc, vu que maintenant il y a plus de patients qui sont victimes de violences, c'est encore plus grave que normalement. Ils ne sont pas capables d'absorber et assurer les soins des patients, surtout ceux qui sont victimes de traumas multiples.
Et vos équipes ne sont pas en sécurité et vos patients non plus?
C'est ça, nous avons aussi vécu des incidents assez graves à Martissant, où un patient sortant de notre centre a été tué sur le trottoir. Et nous avons aussi été menacés lors d'une référence à la ville de Kai par des hommes armés.
Concrètement, comment vous essayez de travailler dans ces conditions ?
Avec beaucoup de prudence et de vigilance, nous avons l'habitude de travailler dans des contextes de violence. Ça fait plus de 20 ans que nous travaillons en Haïti. On ne va pas arrêter de travailler juste parce qu'il y a augmentation de violence. Au contraire, la population a plus besoin de nous que jamais. Nous avons eu plusieurs structures qui ont fermé il n'y a pas si longtemps que ça. Nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour aider cette population qui est maintenant en grand besoin. Nous voudrions, avec cette communication, attirer l'attention de tout le monde, de cette crise qui se passe loin des caméras. MSF, on va faire tout ce qu'on peut, mais il faut plus d'aide. Ce n'est pas encore une grande crise humanitaire majeure qui va arriver aux premières pages des journaux partout dans le monde. C'est une crise oubliée qu'il ne faut pas le négliger.
La directrice, l'ancienne directrice de mission de MSF en Haïti, Lindis Urum, propos recueillis par Marie Normand.
RFI, Las Voces del Mundo.
Il est candidat pour succéder à Donald Trump et il vit en exil à Cuba. Le millionnaire américain John McAfee, qui a fait fortune, notamment grâce à son logiciel antivirus et qui porte son nom, se présente pour la course à la présidentielle américaine de l'an prochain. Il fera campagne depuis Cuba, où il s'est installé pour échapper à la justice américaine et où il propose ses services aux autorités cubaines. Notre correspondante à La Havane, Domiti Piron, l'a rencontré sur son bateau.
John McAfee accueille dans son yacht amarré depuis plus d'un mois à La Havane. Le millionnaire américain s'assure d'abord que le protocole cubain soit bien respecté et que les autorités portuaires acceptent l'interview. John McAfee est à Cuba en qualité de visiteur. Il a récemment quitté les Bahamas par crainte d'être extradé vers les États-Unis, car le créateur du logiciel antivirus qui porte son nom est poursuivi par la justice américaine pour ne pas avoir payé d'impôts depuis 8 ans.
Cuba n'a extradé qu'une seule personne vers les États-Unis en 50 ans. J'espère ne pas être le second.
John McAfee a proposé ses services aux autorités cubaines pour la création d'une crypto-monnaie, mais le mania des monnaies virtuelles assure pour l'instant ne pas travailler avec le gouvernement cubain.
J'ai fait une offre au président cubain dès que le gouvernement a annoncé publiquement son intérêt pour une crypto-monnaie, afin de contourner les sanctions américaines. C'est une brillante idée et cela peut marcher, et je propose mon aide gratuitement parce que j'estime que les sanctions imposées à Cuba par les États-Unis sont illégales, immorales et incorrect.
En 6 mois, il est possible de créer une monnaie virtuelle à Cuba, selon John McAfee. Le problème réside dans la confiance. Cette nouvelle monnaie devra être acceptée par la communauté internationale, qui pourra ensuite réaliser des transactions en toute transparence avec Cuba.
Je n'aurai pas de difficulté à vendre cette idée-là à la communauté, car les États-Unis sont les plus gros ennemis des crypto-monnaies. Et comme ils considèrent Cuba comme un ennemi, il ne sera pas difficile de faire comprendre aux leaders de ce mouvement que si Cuba acquiert une crypto-monnaie, nous allons tous en bénéficier dans le milieu.
Dans son yacht baptisé The Great Mystery, le grand mystère, de 6 chambres et 3 salles de bain, John McAfee et ses 4 énormes chiens cohabitent avec 7 personnes, dont sa femme. Celui qui souhaite créer sa propre crypto-monnaie a pour l'instant mis ce projet de côté, car il est en pleine campagne électorale pour la présidentielle américaine de 2020.
Depuis que j'ai commencé ma campagne en exil, j'ai obtenu des millions de soutiens sur Twitter. Le parti libertarien a accepté que je fasse ma campagne à distance et durant les débats, je serai connecté depuis Cuba à travers des écrans pour répondre aux questions et faire mes discours. Et nous avons également créé un concept unique de ce que nous appelons les clones.
De simples masques de papier avec la photo de John McAfee qu'il espère voir porter par des milliers d'Américains pour faire sa campagne sur place, même si le millionnaire de 73 ans ne souhaite pas être élu.
Je ne peux pas être président, tout le monde le sait, je suis trop sauvage, trop peu orthodoxe. De plus, je ne veux pas être président, ce que je souhaite, c'est utiliser la scène nationale pour parler des problèmes de l'Amérique qui doivent être réglés. C'est ce dont je veux parler durant cette campagne, des problèmes que le gouvernement ne parvient pas à régler et qui sont détournés par une propagande à propos du reste du monde. On nous dit tout le temps, regardez le Moyen-Orient, la Corée du Nord, la Chine, regardez Cuba et le Venezuela. Moi, je pense que nous avons nos propres problèmes dont il faudrait s'occuper en priorité.
We need to solve these first.
John McAfee espère rester à Cuba au moins jusqu'à l'élection de novembre 2020, d'autant qu'il enfreint une nouvelle règle américaine interdisant les ressortissants des États-Unis à voyager en bateau sur l'île. Domiti Piron, La Havane, RFI.
Et c'est un dossier à retrouver quand vous voulez sur notre site internet rfi.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Adrien.
Alors, avant de nous emmener en Guyane, tout d'abord, partons en Guadeloupe, car c'est une première, hein, Benoît. L'INSEE va mener une grande enquête sur l'état sanitaire de la population.
Oui, il s'agit d'une étude régulièrement menée en Outre-mer, mais jamais encore, vous l'avez dit, en Guadeloupe. Des enquêteurs de l'INSEE vont donc se rendre pendant 6 mois chez des particuliers sélectionnés à l'avance, et ils vont les entendre sur leurs habitudes de santé et de salubrité. Yves Calderini est le directeur interrégional de l'INSEE. Il est au micro de Bergette de Saint-Jacob.
Les thématiques abordent donc bien évidemment donc la santé et au-delà donc de la santé, les contours donc de la santé. Donc bien évidemment sur les listes donc de maladies, des maladies tropicalisées d'ailleurs, hein, où on parlera donc du Zika, du Chikungunya, mais sur des thématiques également, on parlera donc de l'environnement, hein, donc l'environnement insalubre par rapport à la santé. Donc toutes ces thématiques seront donc abordées lors de cette enquête. C'est une enquête qui dure en moyenne entre 1 heure et 1 heure et demie. En fonction du nombre de personnes interrogées au sein du ménage. Alors, à quoi elle va servir? Ben, apporter des indicateurs et des chiffres sur les problématiques de la santé et faire donc des comparaisons avec les autres DOM qui font également cette enquête et avec la France hexagonale qui participe à cette enquête durant cette période également.
Direction donc maintenant la Guyane avec ses agriculteurs de la commune d'Apatou qui se sont vus attribuer des parcelles de terrain par la municipalité, parcelles qu'ils ont commencé à travailler, ce qui les a amenés tout droit devant les tribunaux, et oui, car les parcelles en question n'appartenaient pas à la commune, mais à l'État. Explication Nickerson Perdus.
Septembre 2015, plusieurs agriculteurs, dont certains résidents à Javoué dans la commune de Mana, demandent au maire d'Apatou, par voie de courrier, une demande de terrain agricole. Un an plus tard, Paul Dolianqui répond et accède à leur demande en délivrant 12 autorisations d'activité dans sa commune. Il indique dans ce document que chaque intéressé bénéficiera de 10 hectares et devra mettre en valeur l'exploitation dans un délai de 5 ans sous peine de perdre l'autorisation. Un mois plus tard, les agriculteurs entament des travaux de défrichement dans le secteur de la crique Sakura et brûle une centaine d'hectares pour démarrer l'activité. La semaine d'après, ils sont convoqués par l'ONF qui les informe qu'un procès-verbal entraînant une procédure juridique sera adressé car les parcelles en question sont propriété de l'État gérée par l'ONF. Le 12 juin dernier, l'affaire est jugée en référé devant le tribunal de grande instance de Cayenne. Ce dernier ordonne l'expulsion des agriculteurs avec une astreinte de 100 euros par jour de retard car ces derniers sont des occupants sans droit ni titre. Chacun devra à payer une indemnité pour préjudice qui s'élève à 5000 euros. De plus, un expert a été désigné pour évaluer les dégâts. De son côté, la mairie d'Apatou a elle aussi été condamnée. Elle est déclarée responsable et devra verser un quart des indemnisations prononcées à l'encontre des agriculteurs. Nous avons contacté le maire, Paul Dolianqui. Ce dernier ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant. Un dossier qui, semble-t-il, est sensible du côté d'Apatou.
Les avocats des agriculteurs et de la municipalité ont d'ailleurs annoncé leur intention de faire appel. Bon après-midi Adrien, à demain.
Merci Benoît Ferrand pour toutes ces informations ultramarines. Et puis nous refermons ce journal d'Haïti et des Amériques en musique de la cumbia amazonienne. Ce groupe arrive du Pérou. Il s'appelle Los Wemblers de Iquitos.
Son bien grandotas, pero qué sabrosotas, ¿qué es la raza?